Il est 17h41 minutes. Raphaël, on commence avec le président Biden qui propose un resserrement du Buy American.
Oui, super intéressant et en fait super pertinent, notamment pour les entreprises canadiennes qui exportent ou qui souhaitent exporter.
Mais c'est inquiétant. Hein?
Ben c'est ça, intéressant dans le sens, pas nécessairement dans le sens positif, dans le sens porter attention. Payer attention parce que, excuse-moi l'anglicisme, c'est porter attention, payer attention, ça c'est
l'anglicisme. Pay attention.
Exactement. Bref. C'est important. Donc, ce qu'on a annoncé, c'est que les biens achetés avec des fonds publics américains devraient être faits d'au moins 75 % de matériaux de matière américaine. Devraient être faits aux États-Unis à la hauteur de 75 %. En quoi est-ce que ça, c'est nouveau? Bien, on est à 55 % aujourd'hui.
Mmh.
Fait que c'est quand même une hausse assez importante. En même temps, bémol d'emblée, je pense qu'on doit mettre, là, c'est que ça ne va pas se faire tout de suite. Là. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On voudrait monter à 60 % dès cette année, à partir de 55, encore une fois, monter après ça à 65 % d'ici 2024 et à 75 % finalement d'ici 2029. Écoute, même si Joe Biden fait deux mandats, là, en 2029, là, dépendant du moment exact de l'année, il ne sera plus en fonction. Fait que c'est quand même pas demain, mais en même temps, ce n'est pas rien parce que ça a l'air de rien, Marc-Claude, mais le président le disait dans ses remarques aujourd'hui, là, le gouvernement américain, le gouvernement fédéral américain, c'est l'acheteur numéro un de produits de consommation au monde. Au
oui.
monde.
Oui.
Fait que changer ce genre de règles-là peut avoir un impact absolument gigantesque. Autre chose à te mentionner, c'est que le président disait que, ça aussi c'était dans ses remarques là, préparées aujourd'hui, que l'idée, le concept, les clauses Buy American, depuis les dernières années, ça avait été une promesse vide et que lui, il allait mettre tout le poids du gouvernement américain derrière cet engagement-là. Fait que tu sais, pour tout le ton protectionniste qu'on a eu et dont on a beaucoup parlé sous Donald Trump, ce n'est pas un changement qu'on a. C'est un renforcement de ça qu'on a avec, avec Joe Biden.
Et ce n'est pas totalement surprenant parce que ça fait longtemps que ses positions sont assez claires là-dessus.
Oui.
Quelle est l'industrie qui, d'après toi, va être la plus touchée au Canada? Est-ce qu'on parle encore là de fameux bois d'œuvre, de ce qu'on essaie d'exporter puis que l'on ne pourra plus exporter parce que les Américains vont dire non?
Très bonne question. Écoute, ça peut ratisser hyper large parce que tout ce que le gouvernement américain achète, quand tu penses au spectre, c'est hyper large. Fait que c'est difficile de donner une réponse. Ce que je te mentionnerais quand même, c'est ceci. Je te disais qu'il y avait une continuité avec Trump. C'est un petit peu semblable aussi avec ce qu'on a avec la Chine. C'est-à-dire que sur bien, bien, bien des dossiers, il y a une coupure. Sur la plupart des dossiers, il y a une coupure très nette avec Trump. Mais là-dessus, il y a une continuité. Fait que, tu sais, tu me demandes quel genre d'impact économique sur quel genre d'industrie on va avoir au Canada. Je te dirais pour l'instant, c'est difficile à vraiment à déterminer de façon claire. Ce que je peux te dire, c'est que politiquement aux États-Unis, l'impact, il est évident. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un endroit que le président a choisi pour livrer son discours, cette annonce-là aujourd'hui, c'est la Pennsylvanie. C'est
okay.
pas un hasard.
Non.
État stratégique et surtout État manufacturier. Donc, le calcul politique qui était fait par Trump, qui est fait maintenant par Biden, c'est que le secteur manufacturier a saigné très longtemps, trop longtemps aux États-Unis et c'est très payant politiquement d'être vu comme étant en train de se battre pour lui. Fait que, la suite à suivre.
Ouais, le problème, c'est que ça saigne ici aussi, le
ben,
secteur manufacturier,
exact.
Par manque d'employés, le manque de personnel. C'est
Absolument.
Très difficile en ce moment. Bon, entente de principe sur l'énorme projet de loi sur les infrastructures, ils ont réussi à s'entendre?
Potentiellement. Écoute, on parle d'une entente de principe, en même temps, c'est gigantesque. Lorsqu'on se parle des inclinaisons, des orientations économiques de l'administration Biden, oui, il y a le protectionnisme, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup ce plan d'infrastructure-là sur lequel on table depuis des mois. Et ce qui est majeur là-dedans, Marc-Claude, c'est que si on est capable de s'entendre, ça va être essentiellement le premier projet de loi réellement bipartisan, là, aussi important que ça qu'on va avoir vu à Washington depuis, je te dirais, là, personnellement, probablement la présidence Bush. Là. C'était pas hier. Là. À la fois sous Obama, sous Trump, des présidents très différents, mais on était pas capable de négocier au Congrès. Dès que c'était moindrement difficile, au final, ça échouait. Là, on s'enligne peut-être vers un vote au Sénat dans les prochaines heures pour faire avancer ça. On parle donc d'un plan de l'ordre d'un peu plus d'un milliard, de 1 000 milliards de dollars.
C'est un milliard, ça, c'est plus ça, dans nos budgets, nous autres.
Non, c'est exactement. C'est énorme. Même dans la perspective du gouvernement américain, là, c'est gigantesque. Donc, c'est gros à cause que, oui, évidemment, comme priorité législative. Présentement, il n'y en a pas de plus importante pour le président, mais aussi beaucoup parce que, comme promesse électorale du candidat Biden, il n'y en avait pas de plus importante, c'est-à-dire ramener à Washington la coopération entre les deux partis dans cette ère là, de polarisation extrême. Donc, ça pourrait être une victoire absolument gigantesque pour Joe Biden. C'est pas fait encore, mais je te dirais que ce qu'on a dans les dernières heures, c'est probablement les meilleurs signes qu'on a eu depuis des mois, parce qu'encore une fois, ça fait des mois qu'on négocie là, jour après jour après jour.
Serait-ce le début d'un temps nouveau? L'avenir le dira. Nouvelle donnée sur l'ampleur de la crise à la frontière mexicano-américaine. Raphaël, c'est vraiment terrible.
Ça n'a aucun sens. Écoute, on a commencé en se parlant du Buy American qui pouvait peut-être être bon pour certains acteurs au Canada, probablement mauvais pour plusieurs acteurs aux États-Unis, mauvais pour plusieurs acteurs au Canada, infrastructure qui pourrait être bon pour bien des gens aux États-Unis. Là, cette question-là, le frontalière, c'est une crise. Ce n'est que mauvais pour à peu près tout le monde, à commencer par le président lui-même. Je te donne des données, OK? On est rendu maintenant à plus d'un million d'appréhensions depuis le début de l'année fiscale qui ont été faites à la frontière mexicano-américaine.
C'est des arrestations, tu veux dire, des gens qui ont été...
Qui ont été arrêtés, oui. OK? Qui essayaient de se frayer un chemin, qui ont été arrêtés. Là, on parle seulement des gens qui ont été arrêtés. On ne parle même pas de ceux qui ont été capables de se frayer un chemin sans être arrêtés. Donc, un million, c'est quoi? Bien, c'est le sommet, c'est un sommet, en fait, inégalé en 15 ans. La dernière année où on a eu autant de gens que ça, c'était en 2006. Et c'était pour une année complète. On n'avait pas dépassé un million après quelques mois, là. Et en 2006, là aussi pour donner une comparaison, je te parlais de la présidence Bush. C'était George W. Bush qui était en fonction. Je peux te dire, je m'en rappelle très bien. L'été 2006, c'était une crise qui était en train de consommer sa présidence. Et à ce moment-là, par exemple en juin 2006, c'était à peu près 70 000 migrants qu'on avait interceptés. Là, en juin 2021, Marc-Claude, là,
oui.
On est à près de 200 000. Donc, même quand tu compares à la pire année qu'on a eue depuis le début du siècle, on est en train d'éclipser des records. Et là, dans les dernières heures, on a appris qu'on est rendu à 50 000 migrants qui ont été arrêtés et qui ont été relâchés à l'intérieur même des États-Unis sans même avoir une date de comparution en cours, tellement le système est complètement débordé. Bref, on s'en parlait tantôt, ou plutôt cette semaine, là,
oui.
Lorsqu'il est question de COVID, de fermeture de frontières aux États-Unis, qu'il n'y a pas juste la question sanitaire, il y a aussi la question migratoire. Je t'avais promis de te redonner, de te revenir avec des données, avec des chiffres. Bien là, ça te donne peut-être un meilleur ordre de ce qui se passe.
Oui, puis c'est important de souligner qu'il y a peut-être des gens qui essaient de rentrer pour des raisons pas toujours sincères, mais il y a vraiment des gens là, qui ont quitté des pays où c'est dangereux.
Oui.
Et qui doivent trouver une terre où ils seront en sécurité. Et puis, j'ai comme l'impression qu'en ce moment, ils font un mélange, un amalgame, oui. Que c'est tout du mauvais monde qui veut rentrer.
Non, tu sais. C'est ça. C'est que oui, il y a un aspect sécuritaire, évidemment, à ça. Mais foncièrement, pour la majorité de ces gens-là, c'est une crise humanitaire.
Tout à fait.
Humanitaire. Non, c'est une horreur sans nom qui a des répercussions négatives pour, encore une fois, plein de pans de la société, là.
On se laisse là-dessus, cher Raphaël. Je te dis un gros, gros merci, puis on se retrouve demain.
À demain.
Allez, bonne soirée à toi. Martin Lemay vient nous parler du menu d'amateurs de sport tout de suite après cette petite pause.